Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Vive émotion ce mercredi sur la place Saint-Pierre. Le pape François a demandé à la foule de prier avec lui pour une petite Italienne d'un an et demi atteinte d'une grave maladie. Au cœur de l'audience générale hebdomadaire ce mercredi, la communion des saints, les sacrements, les charismes et la charité. Et c'est bien sûr la une de ce magazine. Nous reviendrons sur le discours de Mgr Pontier à Lourdes à l'ouverture de l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France. Nous reviendrons également sur le prochain synode pour la famille. Vous entendrez le cardinal R2 porteur de cette assemblée. Et puis nous verrons également que la France entend protéger les chrétiens d'Orient, victimes de graves injustices. Ce mercredi matin sur la place Saint-Pierre, le pape François a demandé à quelques 50 000 personnes de prier pour une petite fille gravement malade. Le souverain pontife qui présidait l'audience générale a raconté qu'il avait reçu un peu plus tôt à la résidence Sainte-Marthe cet enfant âgé d'un an et demi et qu'il avait prié pour elle avec ses parents. La foule a observé une minute de silence avant de réciter un Ave Maria. Je me permets de vous demander un acte de charité, a-t-il lancé en ajoutant avec son humour habituel, soyez tranquille, il ne s'agit pas d'une récolte de fonds. La petite s'appelle Noémie, elle souriait, nous ne la connaissons pas, mais posons un acte d'amour pour elle, que le Seigneur lui donne la santé. Le pape François avait choisi de consacrer sa catéchèse à la communion des saints, l'occasion d'appeler les chrétiens à annoncer l'évangile, y compris dans les lieux les plus hostiles, et de prononcer un véritable plaidoyer en faveur des sacrements qui, dit-il, alimentent en nous une foi forte et joyeuse, capable de s'étonner devant les merveilles de Dieu et de résister aux idoles de ce monde. La communion des saints est aussi la communion au bien spirituel. Olivier Bonnel.
Quand on se sent pécheur, il est important de se confesser. Il ne faut pas avoir peur des prêtres, ils ne sont pas là pour nous punir, assure le pape François. Dans le sacrement de réconciliation, c'est Jésus que nous rencontrons. Il nous attend et nous pardonne. Devant des milliers de fidèles, le pape a insisté sur l'importance des sacrements. Il ne faut pas les voir comme de simples rites, ils sont la force du Christ et nous invitent à être missionnaires. François encourage donc la communion, le baptême des enfants dès leur plus jeune âge et la confirmation. Les sacrements, comme les charismes, sont des facteurs de communion entre les fidèles. Les charismes sont donnés à certains par l'Esprit-Saint pour faire du bien aux autres. Ces grâces particulières n'ont aucun sens si elles ne sont pas destinées à la mission de l'Église. Sans l'amour, même les dons les plus extraordinaires sont vains, avertit encore le pape. Vivre la communion de la charité signifie ne pas chercher son propre intérêt, mais faire nôtre les souffrances et les joies de nos frères. Et le Saint-Père a exhorté les fidèles à aimer les sacrements dans leur vie quotidienne, à mettre leurs talents au service de l'Église et à avoir une charité sans frontières. N'oubliez pas, a-t-il lancé, de remercier le Seigneur et de le prier.
À l'issue de l'audience générale, le Saint-Père a reçu Enrique Capriles, gouverneur de l'État de Miranda et figure de proue de l'opposition vénézuélienne. Avant son départ, Enrique Capriles avait indiqué qu'il demanderait au pape François de faciliter la coexistence politique alors que de vives tensions perdurent depuis l'élection présidentielle en avril. À l'issue de l'audience, il a affirmé devant les journalistes qu'il avait informé le pape argentin du climat de conflit qui règne, selon lui, au Venezuela. Tous les jours, a-t-il martelé, le gouvernement exerce des menaces et du chantage. L'Église, qui a un grand pouvoir de mobilisation au Venezuela, peut, selon lui, promouvoir une sortie de crise pacifique et démocratique. Après la mort d'Hugo Chavez, le social-démocrate Enrique Capriles avait été candidat à l'élection présidentielle du 14 avril face à l'actuel chef de l'État vénézuélien, Nicolas Maduro. Il a refusé de reconnaître les résultats du scrutin, dénonçant des irrégularités. En juin dernier, le pape François avait reçu le successeur d'Hugo Chavez, le président Maduro. Toujours ce mercredi matin, le pape François a béni la torche des Universiades d'hiver qui se dérouleront du 11 au 21 décembre dans la région italienne du Trentin, dans les Dolomites. C'est la première fois qu'un pape accomplit un tel geste. L'Universiade d'hiver est un festival sportif et culturel international qui a lieu dans différentes villes tous les deux ans et qui suit les Jeux Olympiques en termes d'importance. En 2011, en Turquie, 52 pays avaient participé aux compétitions. À Lourdes, mardi, le nouveau président de la Conférence des évêques de France a prononcé un discours très axé sur le contexte social et notamment sur la situation des sans-papiers et des Roms. Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, ouvrait l'assemblée plénière des évêques de France en présence de plus de 120 évêques français devant durer jusqu'au 10 novembre. Ce n'est pas la première fois que l'archevêque de Marseille plaide en faveur des sans-papiers. Il s'était déjà distingué par ses interventions en leur faveur. Alors comment faut-il interpréter son discours à ce sujet? Les explications sur place de Dominique Greiner. Il est le rédacteur en chef religieux du quotidien La Croix.
Nous avons eu en France des propos assez haineux. Il y a eu des déclarations d'hommes politiques mettant en cause les questions de l'impossibilité de l'intégration des populations d'origine bulgare ou roumaine. Monseigneur Pontier n'a pas utilisé le mot « rom ». C'est peut-être aussi pour éviter de stigmatiser. Donc en France, on est à fleur de peau sur ces questions. Et l'objectif, à l'évidence de Monseigneur Pontier, c'était que les chrétiens, les communautés chrétiennes prennent toute leur place dans ce débat et ne se laissent pas prendre au piège du discours de haine et qu'elles continuent, ces communautés, à travailler à l'intégration. C'est possible d'intégrer. On a des expériences très concrètes dans les diocèses de France et ces expériences méritent d'être soutenues.
Donc vous pensez qu'il a été guidé par cette peur de la dérive de l'extrême droite ?
Je crois que c'est plus large que ça, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de propos ne venaient pas simplement de l'extrême droite, c'est de tous les courants politiques. C'est vrai que nos hommes politiques en France sont assez désarçonnés. C'est une question complexe, et Monseigneur Pontier l'a dit, c'est une question aussi qui relève de la compétence européenne. Et c'est vrai que dans cette espèce de crise économique, sociale que nous traversons, il est facile de stigmatiser les populations étrangères. Et ce risque, il nous menace tous, ce n'est pas simplement l'extrême droite, il y a une espèce de repli un peu général de la société. C'est contre cela que nous met en garde Monseigneur Pontier.
Quelle différence vous trouvez par rapport au précédent discours qui avait été fait, qui était lui plus axé, ce n'était pas Monseigneur Pontier, mais qui était plus axé sur le mariage pour tous?
On a des discours d'ouverture des assemblées qui sont ancrés dans l'actualité. La question du mariage pour tous est derrière nous maintenant. Donc de fait, elle marque moins les débats. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de tirer toutes les leçons de ce débat. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine crise économique, sociale, et que la question des étrangers redevient cruciale dans les débats, surtout qu'il y a quand même plusieurs scrutins qui se préparent, avec un scrutin sur les municipales et le scrutin européen. Il y a aussi des enjeux politiques, et il faut que les chrétiens soient bien en fait des enjeux de ces scrutins, et qu'ils ne se laissent pas prendre non plus par l'émotion, l'affect, et qu'ils soient en mesure de tenir leur place dans les débats de société des mois qui viennent.
Mais après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations peut-être qu'il aurait dû mettre en avant?
Il l'a dit très clairement, il y a toujours des choix qui se font. Et Monseigneur Pontier fait un exercice qu'il a appelé de discernement spirituel, essayer de voir le monde du point de vue de Dieu. Il a repris une expression du pape François et en disant « Et ce monde vu du point de vue de Dieu, c'est du point de vue des petits, du point de vue des faibles, de ceux qui vivent l'exclusion ». Donc c'est ce qu'il a essayé de faire à travers le cri des populations immigrées qui cherchent à trouver leur place en France, à travers la question des Roms. Mais il a aussi évoqué la question des inégalités, de la précarité croissante. Donc c'est beaucoup plus large. Finalement, c'est les grandes préoccupations sociales des Français qu'il a évoquées. Et il a brossé un portrait de la situation économique et sociale, puis des préoccupations qui concernent les communautés et aussi ce que voient les évêques sur le terrain lors de leur visite pastorale.
Le journaliste Dominique Greiner, interrogé par Audrey Radondi. Le pape François a envoyé un message à Mgr Georges Pontier en réponse à une lettre l'informant de la tenue de l'Assemblée plénière d'automne à Lourdes. Le Saint-Père encourage les évêques à poursuivre leur engagement au service de l'homme, particulièrement des personnes les plus délaissées, se félicitant de la tenue du rassemblement Diaconia. Le pape François insiste également sur l'importance d'une formation solide des futurs prêtres qui vise à préparer des hommes de foi profondément attachés au Christ et proches des personnes qui leur sont confiées, n'ayant pas peur d'aller vers les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Suivant une tradition multiséculaire, le consul général de France à Jérusalem s'est engagé mardi à défendre les chrétiens d'Orient les plus injustement traités de cette région. Hervé Magro a fait son entrée solennelle au Saint-Sépulcre. Ce privilège qui consacre sa prise de fonction n'est pas accordé aux autres diplomates laïcs. Le récit de l'AFP, lu par Olivier Tosserie.
En tenue d'apparat, le consul de France a traversé à pied le quartier chrétien de la vieille ville, précédé par deux gardes en livrée de janissaires de l'époque ottomane. Il a été accueilli par les moines français. franciscain de la custodie de Terre Sainte qui officie depuis le XIVe siècle au Saint-Sépulcre. Le frère Pizzaballa, responsable de la custodie, a souhaité à cette occasion que soit préservé le caractère unique de la ville sainte et que soient respectées les différentes identités religieuses qui la composent, notamment celle de la fragile communauté chrétienne. Pour sa part, Hervé Magro a assuré que la France restera aux responsabilités que l'histoire lui confère depuis 5 siècles à l'égard des églises chrétiennes et des communautés religieuses de Terre Sainte. Les événements qui se déroulent dans cette région et dont les communautés chrétiennes souffrent particulièrement, a affirmé le consul, nous imposent un engagement sans faille dans la mission de soutien aux chrétiens d'Orient. Le consulat général de France, rappelle encore l'AFP, a compétence territoriale non seulement sur la ville sainte, mais aussi sur les territoires occupés par Israël depuis juin 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza. En outre, il continue à assumer un rôle de protection des lieux saints et des communautés religieuses. Les liens franco-ottomans datent des accords signés en 1535-1536 entre François Ier et la Sublime Porte, première alliance entre un roi très chrétien et un monarque musulman. François Ier obtint de Soliman le Magnifique le droit de protéger les chrétiens de Terre Sainte.
Et le patriarche latin de Jérusalem a vivement protesté mardi contre la démolition par les forces israéliennes d'une propriété du patriarcat qu'hébergeait une famille palestinienne musulmane de 14 personnes. Un cas sans précédent, selon lui. Monseigneur Fouatoual a affirmé que cet acte était contre la loi, la justice et l'humanité et contraire à la paix puisqu'il intensifie la ségrégation et la haine. Les forces de sécurité israéliennes accompagnées de bulldozers ont procédé à l'aube à Jérusalem-Est en affirmant que la maison avait été érigée sans permis de construire. La famille expulsée a trouvé abri sous une tente. Monseigneur Toile a affirmé que la propriété était légale et que le patriarcat latin n'avait reçu aucun ordre de démolition de la part des autorités israéliennes. La famille est au cœur des préoccupations de l'Église catholique. Un synode extraordinaire lui sera d'ailleurs consacré dans moins d'un an, du 5 au 19 octobre. Et parce que les délais sont courts, une méthodologie particulière a été mise en place pour préparer cette grande rencontre. Un questionnaire envoyé aux conférences épiscopales du monde entier s'adresse aux catholiques croyants, prêtres ou familles, qu'elles soient en règle ou non vis-à-vis de la doctrine de l'Église. Des questions concernent le concept de loi naturelle, la pastorale de la famille, mais aussi l'attention apportée aux couples homosexuels ou aux divorcés remariés. Le cardinal Peter Erdő, archevêque de Budapest, a été nommé rapporteur de ce synode. Il revient tout d'abord sur le document préparatoire.
Le document préparatoire contient une explication de l'opportunité de cette synode extraordinaire. Il s'agit de l'urgence pastorale et après, on offre un recueil de textes bibliques et de magistère qui concerne la famille et le mariage, alors la doctrine de l'Église. Et après, on a un recueil de questions, une bonne trentaine de questions, dirigées aux conférences épiscopales. Ce sont les conférences épiscopales, alors, qui doivent répondre. Mais la méthodologie est tout à fait spéciale, aussi parce que le temps jusqu'au synode extraordinaire est très bref. C'est pourquoi on doit recueillir les réponses en janvier. Ça veut dire que les évêques peuvent demander les curés, les paroisses, mais ce n'est pas facile. Et il faut naturellement avoir la possibilité de voir les désirs, l'opinion et aussi la condition pastorale des catholiques croyants surtout. C'est pourquoi il y a des associations, des mouvements spirituels, des familles chrétiennes qui sont intéressées, qui peuvent aussi répondre aux questions. Naturellement, ce sont aussi les dicastères de curie romaine qui sont demandés. Et à la fin, il faudra faire une synthèse, qui sera un grand travail à la fin.
Dans ces questions, ces 39 questions, on voit évidemment beaucoup d'intérêt porté aux catholiques et leurs difficultés posées par un rythme effréné au travail, des difficultés de communication dans leur couple. Mais il y a aussi un grand intérêt pour ceux, les familles, qui ne sont pas en règle.
Ah, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de situations. Selon nos informations, dans le monde occidental, une grande part des couples qui vivent ensemble vivent sans aucun mariage. Ça veut dire pas seulement sans mariage ecclésiastique, mais aussi sans mariage civil. Et dans certains pays, ce sont la grande majorité des couples. Alors c'est une réalité sociale ou sociologique qui doit être examiné avec beaucoup d'attention de la part de l'Église, parce que c'est un grand défi pastoral.
Il y a aussi évidemment toutes ces questions sur les divorcés et remariés, des questions plus sensibles sur l'attention apportée aux couples homosexuels. Là, il n'y a vraiment aucun tabou. Vous n'avez pas peur de les évoquer?
Les sujets ne sont pas des tabous, mais nous avons une grande force inspiratrice. C'est l'Esprit Saint, c'est notre foi. Alors, ce n'est pas une enquête quelconque. Nous demandons les croyants, nous demandons l'Église. Alors c'est l'Église qui, à travers les évêques, répond au Saint-Père. Et à la fin, il faut en parler au sein des évêques, qu'il y aura entre les auditeurs, surtout aussi des familles, des gens mariés qui ont expérience personnelle dans la famille. Alors, à la fin, on verra ce qu'on pourra proposer au Saint-Père.
C'est ça. Mais vous n'avez pas peur quand même qu'il puisse y avoir des divisions sur ces sujets si délicats au sein de l'Église?
Certainement, il y a des différentes opinions, des différentes expériences aussi, selon les régions, selon l'attitude personnelle. Mais il y a une base commune, c'est la foi. C'est aussi l'enseignement de Jésus-Christ et aussi l'enseignement du magistère de l'Église. Alors, sur cette base, on peut et on doit chercher les solutions pastorales.
Mais est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, justement, au regard des exigences pastorales, des changements concernant la doctrine?
La doctrine établie de l'Église, pas tellement. Alors, ce n'est pas une doctrine plébiscitaire, c'est une doctrine qui provient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire l'essentiel de la doctrine de l'Église n'est pas à disposition, à libre disposition des hommes, des êtres humains. C'est pourquoi il faut travailler avec beaucoup de responsabilité, mais il faut savoir aussi les nuances, les accents historiques, les possibilités de changement, surtout au niveau de discipline de l'Église. Il y a des possibilités de différentes solutions.
Il y a une réforme qui a été annoncée concernant l'institution synodale. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait accorder plus de place, plus de poids aux laïcs et aux familles, comme vous l'avez dit, qui seront présents lors du prochain synode?
Les laïcs, selon les déclarations officielles faites jusqu'à maintenant, ne sont pas prévus comme membres parce qu'il s'agit de synode des évêques. Alors, ce n'est pas une autre institution. Certainement, le Saint-Père a la possibilité d'organiser ou de changer la physionomie institutionnelle de cette forme établie de la consultation, mais il faut attendre. Parce que maintenant, c'est assez difficile à suivre les règles déjà existantes pour le synode, parce qu'il s'agit d'un synode extraordinaire et les temps sont très brefs.
Le cardinal R2, archevêque de Budapest et rapporteur du prochain synode sur la famille, interrogé par Marie Duhamel. L'affaire passionne les Américains. Aux États-Unis, la Cour suprême devait se pencher ce mercredi sur la légitimité de l'usage public de l'invocation « God bless America », que Dieu bénisse l'Amérique, la formule traditionnelle prononcée au début et à la fin des discours institutionnels et politiques. Des manifestants pour la défense de la liberté religieuse d'une part et d'autres favorables à la laïcité devaient se rassembler sur les marches du temple de la justice américaine. La Cour suprême devait donc se prononcer sur le caractère constitutionnel de ces prières législatives. Il s'agit de savoir si ces prières violent le principe de neutralité en favorisant la religion chrétienne. Récemment, une cour d'appel a jugé inconstitutionnel les prières du conseil municipal de la ville de Grice dans l'état de New York. Deux habitantes avaient soulevé le problème en estimant qu'aucune prière ne devrait être récitée devant une assemblée politique. Le premier amendement de la Constitution américaine stipule notamment que le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion. En vertu du 14e amendement, cette clause s'applique au gouvernement fédéral, mais aussi aux autorités locales. La décision devrait être rendue au plus tard, en juin prochain. Une messe sans frontières. Chaque année, le premier samedi du mois de novembre, des prêtres issus des deux côtés de la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique célèbrent une messe en mémoire des migrants morts en tentant la traversée. Plusieurs centaines d'émigrés, de nombreuses familles qui se retrouvent séparées par la loi américaine sur l'immigration, y ont participé samedi dernier. Début octobre, une dizaine d'évêques américains et mexicains avaient écrit une lettre pastorale commune pour alerter sur la situation de ces familles d'immigrants et notamment des enfants dont les parents sont expulsés. expulsés vers le Mexique. De nombreuses familles, souligne-t-il, sont tout simplement brisées par les lois anti-immigration des États-Unis. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de votre fidélité.